Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Mémoire de guerre, tome 2. L'unité 1942-1944 est le deuxième volume des souvenirs de guerre de Charles de Gaulle, publié dans sa version originale au milieu des années 1950 et réédité ici en format poche. L'ouvrage couvre une période décisive de la Seconde Guerre mondiale, depuis le basculement stratégique provoqué par le débarquement allié en Afrique du Nord jusqu'à la libération de Paris. Plus qu'un simple récit militaire, il mêle témoignages personnels, analyses politiques et défense d'une certaine idée de la France. De Gaulle y raconte comment il cherche à rassembler la France combattante, à imposer la légitimité française face aux alliés et à préserver l'indépendance nationale dans un contexte dominé par les rapports de force diplomatiques. Le livre montre aussi la transformation progressive de son rôle de chef de la France libre à acteur central de l'unité nationale au moment où se préparent les grandes étapes de la victoire. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, l'Afrique du Nord comme point de départ d'une reconstruction politique et militaire. Le cœur du volume est la période où De Gaulle comprend que le sort de la France se joue désormais en Afrique du Nord. Le débarquement allié de 1942 ouvre une nouvelle phase. Il ne s'agit plus seulement de continuer le combat depuis l'exil, mais de reconstruire une autorité française capable d'exister face aux Anglo-Américains. Cette situation donne au récit une dimension stratégique très nette. De Gaulle insiste sur la nécessité de réorganiser les forces françaises combattantes, de donner une cohérence administrative et militaire à ce qui reste de la France libre et de transformer un combat de survie en projet d'État. L'intérêt du livre tient à cette articulation entre action militaire et décision politique. La guerre y apparaît comme un espace où la légitimité se conquiert autant par l'organisation que par les armes. Cette lecture permet de comprendre pourquoi l'Afrique du Nord est présentée non comme un simple théâtre d'opération, mais comme un pivot de la Renaissance française. Deuxièmement, la lutte pour la souveraineté française face aux alliés. Un des axes les plus importants du livre est la confrontation avec les alliés, en particulier avec les États-Unis et, à certains moments, avec Churchill. De Gaulle refuse d'être relégué au rang de représentant secondaire, alors que les puissances alliées cherchent souvent des interlocuteurs plus malléables, comme Darlan puis Giraud. Le texte montre une tension constante entre la nécessité de coopérer et l'exigence de souveraineté. De Gaulle ne conteste pas l'alliance, mais il refuse qu'elle se transforme en tutelle. Cette position structure tout le volume et explique sa tonalité politique. L'ouvrage met ainsi en évidence un problème majeur de la guerre. La libération de la France ne consiste pas seulement à vaincre l'Allemagne, mais aussi à empêcher que le pays sorte du conflit diminué dans sa dignité et dans sa liberté de décision. L'intérêt analytique du livre est de faire apparaître la diplomatie comme un champ de bataille à part entière, où se joue l'avenir institutionnel du pays. Troisièmement, l'unité des Français comme condition de la victoire. Le titre du volume résume son enjeu central, l'unité. Pour De Gaulle, la victoire française ne peut être durable que si les forces dispersées se rassemblent autour d'une même légitimité. Le livre suit cette volonté d'agrégation, qu'il s'agisse des combattants de la France libre, des ralliements issus de l'Afrique du Nord ou de la résistance intérieure. L'unification n'est pas présentée comme un geste symbolique, mais comme une exigence pratique de guerre sans centre politique reconnu. Les forces françaises risquent la division, l'inefficacité et l'effacement. Le récit souligne alors la difficulté de composer avec des sensibilités différentes, des ambitions concurrentes et des arrière-plans idéologiques parfois opposés. Cette problématique donne au volume une forte cohérence. Elle éclaire aussi la méthode de De Gaulle fondée sur l'autorité, la continuité et la recherche d'une ligne commune. Le livre offre ainsi une réflexion sur la construction de l'unité nationale en temps de crise, bien au-delà du seul épisode militaire. Quatrièmement, un récit de guerre où la diplomatie, l'administration et le commandement sont indissociables. Ce tome montre que De Gaulle ne se définit jamais seulement comme chef militaire. Il doit en permanence arbitrer entre les exigences du commandement, les contraintes diplomatiques et la préparation d'un pouvoir politique futur. Cette double, voire triple, fonction structure l'ensemble du récit. Les opérations militaires y sont importantes, mais elles sont toujours reliées aux rapports de force institutionnelles qui gouvernent, au nom de qui, avec quelle légitimité, et pour quelle France d'après-guerre. L'intérêt du livre est précisément de faire sentir que la guerre moderne ne se réduit pas au front. Elle engage aussi l'administration, les réseaux d'influence, la gestion des hommes et la représentation internationale. De Gaulle écrit en homme d'État, autant qu'en témoin. Cela rend le texte dense, parfois exigeant, mais aussi très révélateur de sa vision de l'action publique. Pour le lecteur, cette perspective permet de comprendre la guerre comme un ensemble de décisions simultanément militaires, politiques et symboliques. En dernier lieu, une autobiographie politique portée par un style affirmatif et une vision de la grandeur nationale, au-delà des faits, ce volume se distingue par son écriture et par son point de vue. Comme dans l'ensemble des mémoires de guerre, le récit est très personnel, souvent tranché et assumé comme tel. De Gaulle ne cherche pas la neutralité. Il construit une interprétation des événements à partir de sa propre expérience et de sa conception de la France. Cette subjectivité n'est pas une faiblesse accidentelle, mais une composante essentielle du livre. Elle donne au texte sa force, son rythme et sa portée. Le lecteur y trouve moins une chronique froide qu'une vision politique incarnée, où le destin national se confond avec l'action d'un homme convaincu de sa mission. Le style soutenu, parfois solennel, renforce cette impression. Le tome 2 se distingue ainsi des ouvrages historiques classiques. Il ne prétend pas seulement expliquer la guerre, il la raconte depuis le centre du pouvoir en train de se constituer. C'est ce mélange de mémoire, de jugement et de littérature politique qui en fait un livre à part. En conclusion, ce livre s'adresse d'abord à ceux qui s'intéressent à la Seconde Guerre mondiale, à l'histoire politique française et à la figure de Charles de Gaulle. Il conviendra aussi à des lecteurs qui cherchent à comprendre comment se construit une légitimité nationale en temps de guerre, au croisement du militaire, du diplomatique et de l'institutionnel. Son principal apport est de donner accès à la vision d'acteur de De Gaulle, avec ses choix, ses priorités et ses interprétations, plutôt qu'à une synthèse extérieure. Cela en fait un texte particulièrement utile pour saisir l'envers des négociations alliées, la formation de la France combattante et la logique de l'unité nationale. Par rapport à d'autres récits de guerre, ce tome se distingue par sa densité politique et par son ambition de relier chaque événement à une conception globale de la France. Il ne se lit pas comme un simple témoignage, mais comme un document historique et une œuvre de pensée. Pour qui accepte un point de vue très affirmé, c'est un ouvrage des références. Si vous souhaitez soutenir Charles de Gaulle, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.